Renaud Alberni, Isadora Duncan. Santa Madonna, quelle est belle cette bouillabaisse! Un sourire extatique aux lèvres, Mario trempe un croûton doré dans un bol de rouille. Ah, mamma mia, ce parfum! Décidément, la mère Tétou fait la meilleure bouillabaisse de Golfe Juan. Que dit-il du Golfe Juan? De toute la Côte d'Azur? Du monde entier? Mario ferait le tour de la terre pour aller manger chez la mère Tétou. Heureusement, habitant Nice, il a beaucoup moins de kilomètres à parcourir pour venir se régaler. Comme en plus, il est garagiste. Garagiste Bugatti, s'il vous plaît. Il ne lui est vraiment pas difficile de sauter dans une automobile pour foncer à sa table favorite. Mario lève le nez de son assiette. Une gorgée de belé blanc, bien frais, bien sec, lui arrache un ronronnement de plaisir. Il savoure longuement le vin avant de replonger goulûment dans son assiette. Ce n'est que lorsqu'il a fini qu'il s'aperçoit qu'une femme le dévisage avec insistance. Assise à la table qui lui fait face, elle doit avoir une cinquantaine d'années. Elle n'est pas spécialement belle. Son visage paraît bouffi. À juger par le nombre de bouteilles qui s'alignent devant elle, elle doit boire plus qu'elle ne mange. En tout cas, elle n'a quasiment pas touché à son assiette. Au premier coup d'œil, Mario l'a classée parmi les riches excentriques, ces drôles de cigales qui abondent sur la Riviera française. Il n'y a qu'à voir l'immense châle rouge frappé d'un grand oiseau jaune et débordant de franges qui la drape pour comprendre que l'on a affaire à une douce folle dingue. Ce doit être une étrangère. Mario l'a tout à l'heure entendu parler avec la femme qui l'accompagne. Deux Américaines à coup sûr, dont l'une ne le quitte pas des yeux. Assez gêné, tout rougissant, il sourit bêtement comme un collégien timide. En retour, elle se dresse et lui porte un toast à voix haute. Ne sachant plus où se mettre, le garçon incline la tête en levant son verre. Quelques instants plus tard, il demande l'addition, paye et saute dans sa Bugatti sans demander son reste. Au moment de sortir, il a encore droit à un petit baiser adressé du bout des doigts. Puis il disparaît tout empourpré sous ses boucles brunes. Isadora Duncan se retourne triomphante vers son amie Mary et la prend à témoin. C'est merveilleux, elle plaît encore aux hommes. Elle plaît toujours aux hommes. Mary secoue la tête d'indignation. Comment Isadora ose-t-elle se comporter ainsi avec un simple chauffeur? Un chauffeur? Isadora lève les yeux au ciel. Mais ce n'est pas un chauffeur, c'est un jeune dieu grec déguisé qui est venu la chercher dans son char. Dehors, la Bugatti démarre en trombe. Bouche bée, Mary reste interdite. Isadora l'inquiète de plus en plus. Elle ne reconnaît plus en elle l'artiste adulé, la danseuse géniale, louangée par Rodin, Colette, Cocteau, Picasso, Picabia, par toute la critique et le public du monde entier. Elle ne voit plus qu'une vieille femme pathétique dont le aîné ne parvient pas à masquer les cheveux gris et dont le corps, autrefois si beau, s'est avachi au fur et à mesure que l'âme s'alourdissait. Mary éprouve de la pitié en songeant qu'après avoir séduit des milliardaires, Isadora en est réduite à lever des gigolos ou des marins embordés, n'importe qui, pourvu qu'il lui donne l'illusion qu'elle est toujours désirable. Tristement, Mary se dit qu'Isadora a dilapidé sa beauté, tout comme elle a dilapidé sa vie, ses amours, son argent. Que reste-t-il du cachet de sa dernière prestation sur la scène du théâtre Mogador en mai dernier? Rien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 septembre 1927 et, en pas même 3 mois, elle a tout dépensé. Évaporées aussi les avances perçues sur l'écriture de ses mémoires. Isadora ne possède que des dettes. Mais elle s'en fiche. Elle ne pense qu'à son bel Éphèbe. L'argent n'a aucune importance. Elle finira toujours par en trouver. Mais l'amour... L'amour ? Elle éclate de rire et se dresse d'un bond en plein restaurant. Parée de son grand châle, seule au milieu des odeurs de bouillabaisse, elle commence à danser pour son jeune dieu grec. Deuxième partie. 5h-5. Mario gare sa rutilante Bugatti devant le 343 promenade des Anglais où, en ce mercredi 14 septembre 1927, Isadora Duncan lui a fixé rendez-vous. Mario est un peu en avance. C'est le moins qu'il puisse faire, car voilà une semaine que l'Américaine lui court après pour acheter sa voiture, dont elle prétend avoir absolument besoin. Depuis qu'il a appris par Madame Tétou qui est Isadora Duncan, Mario a les jambes qui flageolent. Ce n'est quand même pas tous les jours qu'une grande vedette insiste pour vous rencontrer. Mario a beau se donner de grands airs, les célébrités l'impressionnent toujours. Avec elles, on ne sait jamais ni quoi dire, ni quoi faire, ni à quoi s'attendre. 5 heures sonnent au clocher de Sainte-Hélène. Mario prend une grande respiration et saute du siège de sa voiture. Les paumes moites, il sonne à la porte d'Isadora Duncan. La danseuse est bien plus belle que dans son souvenir. Elle l'entraîne dans son salon et aussitôt le presse de questions sur sa Bugatti. Se sentant sur son terrain, Mario embraye sans plus attendre. Il démarre sur les 4 cylindres avec arbre à came en tête, poursuit par une vitesse de 150 km/h et atteint les sièges baquets quand il se rend compte qu'il a perdu le contrôle de la conversation. Sans qu'il sache très bien pourquoi, Isadora est en train de lui expliquer qu'elle a commencé à danser dans le ventre de sa mère, car celle-ci ne se nourrissait que d'huîtres glacées et de champagne. Un instant bouche bée, Mario tente de relancer sa Bugatti dans la course, mais Isadora l'a devancée. À l'âge de 6 ans, elle ouvre son premier cours de danse. À 10 ans, elle enseigne à tous les enfants riches de San Francisco. Puis elle dévore les auteurs classiques et découvre sa raison de vivre. Ressusciter la noblesse de l'art et de la danse grecque. Mario, complètement dépassé, se dandine sur le bord de son siège. Isadora ne lui laisse aucun dépit. Elle lui explique qu'elle a quitté les États-Unis car les Américains sont des matérialistes qui ne comprennent rien à l'art telle qu'elle le conçoit. Elle cherche à révéler les êtres à eux-mêmes par la danse, à les libérer de leurs entraves, à leur faire découvrir la part de divin qui est en eux. Mario comprend bien, mais pour en revenir à la Bugatti, pour Isadora, ce prodigieux bolide n'est pas une automobile, mais un char. Mario n'est pas Mario, mais un jeune dieu qui est venu la chercher pour la ramener en Grèce, là où des années auparavant, elle a bâti, selon les plans du palais d'Agamemnon, un temple consacré à la danse. En un instant, les yeux gris bleus d'Isadora, se retrouve en vue de l'acropole, sur le mont Hymette. Vêtue d'une simple tunique blanche, les pieds chaussés de sandales, elle danse en l'honneur du soleil levant. Soudain, Mario se rend compte qu'Isadora s'est dressée, hiératique. Il met encore un instant à s'apercevoir qu'elle n'est pas totalement immobile. Aucun de ses muscles ne frémit. Mais elle est animée, elle bouge, elle vit. Ses pieds ne font aucun mouvement perceptible. Pourtant, il la propulse dans l'espace où elle dessine de lentes arabesques. Le visage, le corps d'Isadora Duncan se sont métamorphosés. Lumineux, il n'exprime qu'harmonie. Ses jambes longues et fines sont superbement sculptées. Magnifiquement élancée, sa silhouette tournoie, aérienne. À cet instant, Mario jurerait entendre de la musique. À cet instant aussi, surgit une espèce de géant, aussi blond que barbu. Il contemple la scène, puis lâche. « Vous ne changerez jamais, Isadora. » La danseuse blêmit. Lohengrin, son ancien amant, son fidèle ami, celui qui hier encore lui promettait qu'une nouvelle fois il assumerait ses dettes et subviendrait à ses besoins, Lohengrin ne pouvait pas plus mal tomber. Que va-t-il s'imaginer ? Allons, elle discutait tout simplement avec ce jeune garagiste de la Bucati qu'il veut lui vendre. Lohengrin, moyennement convaincu, esquisse une moue dubitative. Affreusement gêné, Mario essaye de profiter de ce laps de temps pour s'éclipser le plus discrètement possible. Elle le rattrape sur le pas de la porte. Il faut absolument que le jeune homme vienne la chercher ce soir à 9h avec la voiture. Mario promet, puis disparaît. Isadora Duncan frissonne. Machinalement, elle réajuste sur ses épaules son grand châle rouge. Troisième partie. Il est bientôt 9h. Mario, au volant de sa Bugatti, file sur la promenade des Anglais. Isadora Duncan l'attend. Vêtue d'une longue robe claire, drapée de son éternel long châle rouge, elle est assise à la terrasse d'un petit restaurant tout à côté de son studio. Les mains jointes sur ses genoux, les index pointés en avant, elle est plongée dans ses songes. Son amie Mary lui parle, mais elle n'entend qu'un lointain babillage. Elle pense à ses enfants. Elle en a eu trois. L'aîné avec Gordon Gregg, le grand metteur en scène américain. Le cadet avec Lohengrin. Le Benjamin avec un Italien de passage. Tous trois sont morts. Les deux premiers noyés dans un taxi tombé dans la Seine. Le dernier à sa naissance. Il n'est pas un jour depuis où Isadora ne se soit dit qu'elle aurait préféré ne jamais leur survivre. Comment danser lorsque le ressort est cassé, lorsque la petite musique intérieure est brisée? Elle a essayé. C'est une épreuve surhumaine. Depuis des années, la grâce a disparu. Ne reste que les efforts. Tout est si pesant. Son corps est devenu bien lourd quand elle danse. Bien sûr, elle pourrait encore triompher sur scène, comme il y a quelques mois. Mais il faudrait retrouver cette énergie, cette harmonie qui la fuit sans cesse. Et puis, elle ne peut oublier les humiliations des tournées minables, dont l'impresario disparaît avec la caisse. Elle ne peut non plus oublier l'accueil mitigé du public allemand, qui, après l'avoir adulée, lui reproche maintenant d'être une bolchévique. Bolchévique ? Allons donc ! Isadora ne s'intéresse pas à la politique. On lui fait un mauvais procès parce qu'elle a accepté l'invitation des Russes de venir s'installer à Moscou pour y ouvrir une académie de danse. Le public occidental ne supporte plus de l'avoir affirmé à la fin de toutes les représentations que le vrai communisme, c'est de poser sa main sur le cœur pour faire la révolution en soi et qu'il est honteux, sous prétexte d'embargo commercial, de laisser des enfants crever de faim. Les mêmes qu'il a conspués ont dû franchement sourire lorsque quelques mois plus tard, les soviétiques, qui lui avaient promis monts et merveilles, ont été contraints de lui couper le gaz et l'électricité. N'empêche, Isadora considère les Russes comme le plus grand peuple du monde. Son dernier grand amour a été un poète russe, de 20 ans plus jeune qu'elle. Ensemble, ils ont vécu une liaison violente et passionnée, pleine d'étreintes et de fureur, de larmes et de caresses. Elle l'a même épousé pour qu'il puisse l'accompagner aux États-Unis lors de ses tournées. Là-bas, il a tout cassé, que ce soit le mobilier des chambres d'hôtel ou la figure des policemen. Ils ont dû se séparer. Il aurait été capable de tuer Isadora. Depuis, c'est lui qui s'est tué. Il s'est ouvert les veines dans une chambre d'hôtel et, avec son sang, a écrit son dernier poème. Ces mots ultimes trottent encore dans la tête d'Isadora. Mourir, ce n'est pas nouveau, mais que reste-t-il de nouveau à vivre ? Le rugissement d'un moteur de Bugatti vient lui fournir une réponse inespérée. Comment a-t-elle pu oublier son beau et jeune dieu grec ? Comme promis, il vient la chercher pour l'emmener dans son char. Loin, très loin, tout au bout de la nuit, tout au bout du monde. Il va l'entraîner sur la route infinie de la sublime jeunesse où, grisée d'amour et de vitesse, elle pourra danser éternellement. Mario freine devant le restaurant. Isadora est déjà debout, son châle rouge enroulé autour du cou. À peine la voiture arrêtée, elle se glisse dans le siège baquet. Son amie Mary lui dit quelque chose. Elle ne l'entend pas. Mario démarre. La Bugatti bondit. Isadora d'un camp crie « Adieu, je vais à la gloire !» Son long châle rouge danse déjà autour d'elle. Note. Née le 26 mai 1877 à San Francisco, Isadora d'un camp est morte le 14 septembre 1927, il y a 96 ans aujourd'hui. Elle avait 50 ans. À son sujet, Colette a écrit « Elle danse, elle est née pour danser. Elle pourrait danser masquée, car son corps parle plus que son visage. Son visage aimable et superflu. Elle danse et ne mime point. » Il est à noter qu'Isadora Duncan, native de San Francisco, a vécu ses derniers instants à quelques pas du quartier de Nice appelé la Californie. Fin de Isadora Duncan par Renaud Alberni.